Bonjour, vous êtes sur Radio Sigma. C'est l'heure de l'émission Ici et ailleurs, qui porte un autre regard sur le monde. Je suis Pierre-Yves Bayot, et aujourd'hui je suis accompagné de Lynn, Clarisse,
bonjour,
Maxence,
bonjour,
et Thaïs.
Bonjour.
En première partie, nous allons parler du cinéma, du rap, du sexisme et de la cancel culture. Puis, en seconde partie, nous accueillerons le second groupe, qui nous parlera des traditions et cuisines de Noël. Commençons avec Lynn sur le sujet du cinéma.
Alors, nous allons faire un débat sur les réalisateurs et leur médiation, et ainsi que le rôle tenu par les hommes et les femmes dans les films. Alors, quelles peuvent être les causes et les conséquences du fait que les réalisateurs masculins sont plus mis en avant et médiatisés que les réalisatrices ?
Bah, c'est vrai, c'est ce qu'on peut voir, c'est que y a beaucoup moins de réalisatrices connues. Du coup, ça montre que ce métier, il y a toujours des inégalités entre les deux sexes. Et que le cinéma est toujours un milieu très inégalité entre les hommes et les femmes.
Ben oui, malheureusement, dans le cinéma, c'est les hommes qui dominent sur les femmes. Et voilà.
Pas que dans le cinéma, d'ailleurs.
Oui.
Voilà.
Alors, et sur le rôle tenu par les hommes et les femmes dans les films, est-ce que la société a influencé le rôle de la femme dans les clips de rap et le cinéma ? Et si oui, est-ce que ce rôle évolue-t-il depuis depuis que les débuts du cinéma, quoi?
Déjà au tout début, c'était les femmes n'étaient pas autorisées à jouer dans les théâtres, donc je pense que ça a pu jouer sur le fait que les femmes n'étaient pas très présentes comme actrices dans les films, puisque c'était acteur, c'était un métier pour les hommes de base.
Et oui, les rôles de femmes étaient joués par des hommes dans l'Antiquité. Parce que elles n'avaient pas le droit de jouer.
Et aussi les premiers rôles, aussi les rôles principaux, on peut voir comme dans Ghostbusters ou dans Rocky, souvent c'est des hommes. Et même avant, c'était toujours des hommes qui étaient les premiers rôles, avec les clichés super musclés, tout ça. Mais maintenant, on peut voir que ça change de plus en plus et il y a plus en plus de mixitude. Et du coup, voilà, ça a pu évoluer.
Eh bien, je considère que le débat est clos.
D'accord, bien, merci pour ton sujet. Nous allons maintenant passer au rap avec Maxence et Thaïs.
Merci Pierre-Yves. Donc nous allons débuter sur le thème du rap. On va tout d'abord aborder, selon vous, qu'est-ce que c'est le bon rap et qu'est-ce que c'est le mauvais rap ?
Eh bien, il y a... Tout peut être subjectif parce que chaque personne a différents goûts. Il y a plusieurs genres de rap et ça, depuis que ça a été créé, ça a évolué et ça a pris plusieurs tournures. Et vraiment, on peut distinguer plusieurs styles avec certains plus informatiques, avec plus d'effets spéciaux et d'autres plus naturels. Et chacun a ses préférences et je pense qu'on ne peut pas distinguer le bon rap et le mauvais rap.
Et justement, quand tu parles de numérique, un peu d'informatique, qu'est-ce que vous pensez de l'autotune ?
En fait, ça sert un petit peu à rien. Enfin, c'est totalement idiot. Ça n'a pas d'intérêt.
Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça peut aider pour faire des effets. Et si jamais c'est utilisé à bon escient, ça peut embellir ou avoir un intérêt dans la musique.
Oui, mais si jamais c'est utilisé, vraiment, il n'y a que ça dans la chanson. Enfin, on n'entend que l'autotune. C'est nul, quoi.
Ça tout dépend de l'utilisation.
Oui.
D'accord, merci.
Et que pensez-vous du sexisme dans les clips de rap ou alors dans les paroles des clips de rap ? Par exemple, les femmes dénudées.
Je pense que c'est quand même très dommage parce que cette musique qui représentait au départ la misère, enfin le mal-être des gens dans les quartiers, c'est devenu aussi pas dans tous, mais il y a du sexisme et ça noircit un peu le côté, la beauté que peut avoir ces chansons et la détresse. Et ça fait un poids lourd et ça. C'est vraiment dommage.
Moi, je considère ça un peu inadmissible parce que déjà, les femmes, elles n'ont pas été traitées comme ça. Et puis surtout, c'est dommage, quoi, parce que justement, le rap, quand on pense au rap, on pense tout de suite aux clichés sur les femmes. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que c'est vrai, ça pourrait être une bonne musique, mais là, pas du tout.
Voilà, je pense que c'est trop, vraiment, beaucoup trop généralisé. C'est-à-dire les insultes du type bitch, qui, voilà, on lâche ça comme ça et on ne se rend pas compte ce que ça peut faire et comment certaines personnes peuvent le percevoir. Et comment tu peux pas dire ça dans la rue comme ça.
Et qu'est-ce que vous pensez des clips de rap qui ont été supprimés parce qu'il y avait des hommes dénudés, alors que les clips de femmes avec des hommes dénudés ne sont pas supprimés?
Je trouve ça personnellement totalement débile. Ça montre justement ce que notre société fait et un peu à quel point elle est un peu aveugle et qu'elle a quand même toutes ces contradictions. Parce que les clips avec des femmes dénudées, c'est quand même extrêmement répandu. Mais le fait de supprimer, parce que justement il manquait de vêtements, des clips avec des hommes dénudés, ça montre que
Oui, c'est triste de voir ça parce que ça montre que les femmes dénudées c'est entre guillemets normal alors que les hommes dénudés tout le monde trouve ça inadmissible alors qu'en fait quand c'est les femmes personne dit rien alors que quand c'est les hommes oh là là mon dieu du coup c'est triste de voir ça quoi.
C'est vrai que dans notre société on voit quand même beaucoup de par exemple même dans les publicités dans les films et tout ça on voit beaucoup de femmes dénudées et c'est pas vraiment choquant parce qu'il y en a un peu partout alors que des hommes dénudés tout de suite c'est moins normal en fait d'en voir du coup ça choque les gens.
Oui, on banalise vraiment l'image de la femme hein, qui et je trouve que ça a pas beaucoup évolué depuis plusieurs années, plusieurs décennies. Avant pour les pubs aussi on avait les mêmes choses et vraiment on peut voir très très peu d'évolution là-dessus et puis certaines personnes l'acceptent et d'autres non mais quand on compare aux hommes c'est vrai que là on peut voir il y a vraiment un problème.
On parlait tout à l'heure justement de un peu que c'était cliché les femmes un peu dénudées dans le rap et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez des clichés sur les autres, les gens qui écoutent du rap finalement? Par exemple, qui écoutent du rap ou dans les clips il y a des femmes dénudées et tout ça.
Personnellement, je pense que vu maintenant comment les gens écoutent la musique, on ne regarde plus forcément les clips parce qu'une grande partie de la musique, elle est écoutée sur des plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou d'autres comme ça. Et donc dessus, on ne voit pas les clips. Donc je ne pense pas que ça peut vraiment influencer les personnes qui écoutent. Je ne pense pas qu'on peut dire quoi que ce soit à part des gens qui écoutent à partir des clips parce que quand les gens écoutent de la musique, je ne pense pas qu'ils regardent les clips.
Et même maintenant, on peut voir que certaines personnes écoute les clips, écoute la musique, mais sans même vraiment faire attention aux paroles, parce qu'ils pourraient dire n'importe quoi. Il y en a qui disent des trucs qui n'ont pas de sens, mais tant qu'il y a un bon rythme, une bonne basse derrière, et on écoute quand même, et ça rentre dans la tête, quoi qu'il en soit. Et les gens écoutent ça, parce que c'est simple, ça fait plaisir, c'est agréable à entendre, et voilà. Et ils ne font pas attention aux paroles, ni aux clips.
Et est-ce que vous auriez des clichés ou justement qu'est-ce que vous pensez des personnes qui ont un peu des clichés sur les gens qui écoutent du rap?
Chacun a des clichés surtout, du coup il y a pas grand chose à en penser, tout le monde peut avoir des clichés sur tout et n'importe quoi, du coup voilà.
Oui. Moi je pense il y a énormément de personnes qui écoutent du rap, surtout chez les jeunes, et ça vient de presque toutes les classes sociales, même les plus aisés, tout le monde écoute ça, parce que c'est vraiment une musique très populaire. Et il y a des gens qui se font des clichés, notamment les plus vieux, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, et il y en a très peu maintenant qui ont des clichés.
Je pense que peut-être qu'au début, le rap était tourné vers certains types de personnes qui correspondaient à certains classe, milieu social, âge, etc. Mais maintenant, ça s'est bien répandu. Le rap est écouté par beaucoup plus de gens.
D'accord, merci.
Et j'ai quelques petites questions. Par exemple, pour vous, quels peuvent être les effets si les personnes regardent des clips où on voit des personnes qui tiennent des armes, qui ont de la drogue ou des femmes dénudées? Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des effets?
Si c'est des personnes plutôt jeunes, je pense à des enfants par exemple, si c'est des enfants qui ont accès à ce genre d'image, oui, ça peut être choquant pour eux, mais après, je considère qu'à partir d'un certain âge, enfin tout ne choque plus, enfin je sais pas comment formuler, mais voilà. Et du coup en fait ça dépend du public, je dirais que ça dépend du public, voilà.
Je suis d'accord avec Lynn, c'est vrai qu'il y a vraiment une banalisation de la violence et de la drogue, tout ça. Et c'est vrai que bah, il y a de plus en plus de jeunes qui ont accès à ces clips sur Internet et tout ça. Et vraiment, ça peut, ils peuvent mal comprendre le message et ça peut être dangereux. Il faudrait peut-être mieux réguler les clips pour qu'il n'y ait pas des publics qui peuvent prendre ça au premier degré, qui tombent dessus et que ça fasse après des problèmes, des malentendus.
Je suis d'accord. Enfin, je pense qu'il faut quand même, avoir une maturité pour se dire que en voyant des armes, de la violence, de la drogue, enfin, il faut se dire que c'est pas forcément quelque chose à reproduire. Enfin, que c'est pas forcément un idéal d'avoir des armes, de faire de la violence et de consommer de la drogue. Qu'il faut que, enfin, par exemple, si jamais on est enfant, on va pouvoir se dire que ah bah tiens, je vais être comme eux, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très intelligent.
Je trouve que c'est un peu dommage parce que justement, on associe les images de la violence et tout ça, enfin, surtout les personnes qui regardent. Maintenant, le rap, il peut être associé à quelque chose de violent, alors que ben, de base, oui, ça l'était un peu, c'était pour exprimer de la souffrance et tout ça. Mais maintenant, c'est ça, il y a plein de différents types de rap et c'est pas que de la violence.
Et du coup, selon vous, le rap, est-ce qu'il influence la jeunesse?
Bah oui, du coup, car si c'est des enfants qui ont accès à ce genre d'images, bah oui, ça peut les influencer. Et puis même, je pense aux adolescents, voilà, ça peut les influencer. Du coup, bah oui, selon moi, ça peut influencer la jeunesse.
Je pense que ça influence parce que bah, c'est de la musique et donc il y a forcément certaines musiques qui ont un message et donc l'idée c'est quand même de les transmettre. Bon, je l'admets, c'est pas forcément pour toutes. Mais il y en a un certain nombre qui ont des messages intéressants à vouloir transmettre. Et donc, en les écoutant, bah, on peut réfléchir sur ce message. Et comme c'est de la musique, ça influence forcément. Parce que bah, ça fait partie un peu de soi, de les écouter tout le temps.
Est-ce que vous pensez que la société a influencé le rôle de la femme dans les clips de rap ?
Bah oui, totalement, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quand il y avait des clips avec des hommes dénudés qui étaient censurés, alors que ceux avec des femmes dénudées, on les censurait pas. Bah oui, du coup, la société, elle a influencé le rôle de la femme dans les clips de rap.
Moi, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que le rôle n'a pas bougé, donc il y a pas eu d'influence ni positive ni négative. Si ce n'est qu'il y a quand même de moins en moins de clips de rap, notamment sur les rappeurs connus avec des... Il y en a toujours, hein, mais avec des femmes dénudées. Ah. Eh bien, je pense que le débat est clos. Eh bien, merci beaucoup, Maxence et Thaïs, pour votre sujet. Alors, maintenant, Clarisse va nous parler de la cancel culture. Elle va nous expliquer ce que c'est et nous poser quelques questions dessus.
Donc tout d'abord, j'aimerais donc vous expliquer une courte définition de ce que c'est, même si c'est un sujet assez complexe. Donc en fait, la cancel culture, c'est une sorte de pratique qui vient des États-Unis, qui consiste à dénoncer puis supprimer des œuvres ou la mémoire d'individus et de groupes responsables d'actions, de travaux ou de déclarations problématiques, donc comme des discriminations, des agressions, des incitations à la haine. Et donc, ça s'inscrit principalement dans les mouvements de justice sociale. Donc, à votre avis, qu'est-ce que ça peut apporter de positif ?
Bien, on peut, bien sûr, quand une personne a tenu des propos discriminatoires, on ne peut pas laisser passer. Et souvent, des fois, on peut se dire que si ce qu'il a écrit est totalement inacceptable, on peut se dire que c'est normal qu'on le bannisse pour pas qu'il y ait des gens qui fassent pareil, qui le prennent au sens propre ou qui reproduisent ses idées.
Est-ce que si jamais cette personne a dit ses propos ou a fait ses choses en dehors de ses œuvres, l'a fait dans un contexte privé qui n'était pas forcément, enfin, peut-être publié par exemple sur les réseaux sociaux, mais pas en lien avec ce qu'il produit professionnellement, est-ce que vous pensez qu'il faudrait quand même bannir ses œuvres ?
Moi, je pense que... Enfin, c'est mon avis, mais... je pense que non, parce qu'une œuvre, ça reste une œuvre et ça peut... Enfin, ça peut être quand même important dans l'histoire. C'est quelque chose que quelqu'un a créé, et même si la personne... Enfin, l'œuvre, elle n'est pas responsable de ce que la personne a dit. Donc, en soi, peut-être que là, on pourrait... un peu interdire à la personne de, je sais pas, de refaire d'autres œuvres, mais celles qu'il a déjà faites, il faudrait pas les bannir parce que ce serait de la censure et ça s'inscrire un peu comme dans une dictature du coup.
Et à votre avis, c'est quoi les points négatifs de cette pratique ?
Eh ben, les points négatifs, c'est que du coup, bah, un peu tout peut être pris mal. Enfin, tout ce que dit une célébrité, ça peut être mal pris et ça peut être très mauvais parce que bah, faut arrêter de tout mal prendre au bout d'un moment et voilà.
Après, je pense, enfin, ça dépend aussi du contexte de l'œuvre. Par exemple, un exemple très connu de Tintin au Congo. Il y a dedans, il y avait des propos qui étaient racistes. Mais à cette époque, quand Hergé l'a écrit, c'était pas quelque chose que, enfin, qui faisait, c'était pas quelque chose qui était pas bien vu dans la société en fait. C'était un peu normal pour lui.
Ouais, il est vrai que le contexte est très important et on a souvent tendance à l'oublier. Parce que par exemple, on veut prendre deux exemples. Donc déjà, Agatha Christie dit petit nègre, donc le nom. Donc nègre, nous on fait toujours référence du coup aux esclaves noirs et qui est bah du coup dans les États-Unis et qui est vraiment un mot tabou. Mais là, le mot nègre au départ, ça désigne quelqu'un, par exemple un nègre d'écrivain qui va écrire un livre pour quelqu'un. Ça ne désigne pas forcément un esclave ou un noir. Et il faut vraiment mettre les choses dans leur contexte. Et là-dedans, on a censuré le nom récemment, alors que bah, je pense qu'il n'y en avait pas vraiment besoin.
D'accord. Bah, merci à vous.
Eh bien, maintenant, nous avons posé des questions aux élèves du lycée lors d'un micro-trottoir intérieur, malheureusement. Nous allons maintenant l'écouter.
Est-ce que vous pouvez me citer un réalisateur ?
Tarantino.
Je dirais Hitchcock.
Bah, Spielberg.
Spielberg.
Bah, Christopher Nolan.
Spielberg.
Almodovar. Et maintenant une réalisatrice.
Bonne question, j'en ai pas en tête.
Non.
Non.
Margaret von Trotta.
Ah non, je crois pas.
Non, absolument pas.
Issy Arbolaine. Est-ce que vous écoutez du rap ?
Oui.
Ouais, un peu.
Ouais.
Non.
Un peu.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Et qu'est-ce que le bon rap ?
C'est le rap qui n'est pas américain, pour moi.
C'est du rap qui est bien écrit, qui est bien chanté ou parlé, quoi, avec une bonne instru.
Une bonne instru, des bonnes paroles.
Ça dépend quel type de rap. Parfois, il y a des messages qui sont bien dans le rap, et parfois, c'est juste pour insulter, et dans ces cas-là, je trouve pas ça très intelligent.
Et que pensez-vous des gens qui écoutent du rap ? Ah bah, c'est très bien. Je connais pas assez le sujet pour avoir un avis éclairé dessus.
Les gens font bien ce qu'ils veulent dans la vie, très honnêtement.
Ma foi, je dirais que c'est une forme d'art musical comme on peut en trouver d'autres, donc il n'y a pas grand-chose à dire dessus.
Et vous pensez quoi des clips de rap un peu clichés ?
Ah, c'est voiture, avant, sexe, drogue, tout ça. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent après. Hein.
C'est pas mon style, mais s'ils veulent faire ça, bah, ils peuvent.
Ma foi, ça n'engage que le monde du rap. J'ai pas une grande connaissance de ce domaine-là, donc je peux pas dire non plus quoi que ce soit dessus.
Bah, ça fait pitié un peu.
Avec les bijoux en or, tout ce qui brille, les belles voitures, les belles filles, justement trop cliché et pas représentatif du bon rap, justement.
Alors, je regarde pas beaucoup de clips.
Si l'autre jour j'étais chez le dentiste et du coup j'ai vu beaucoup de clips de rap, j'étais étonnée de l'image de la femme.
J'avoue que je suis pas super fan des clips. C'est dommage de rester toujours dans la même chose, quoi.
Et vous pensez quoi de l'autotune ?
Ça va, je trouve que c'est horriblement nul.
Je n'ai pas d'avis là-dessus.
Ah, bah, tout ce qui est artificiel, je suis pas trop pour, moi.
Bah, pour, ça embellit les musiques, c'est bien.
Pour, mais pas en excès.
Ça dépend, c'est... Enfin, pas trop.
Oh, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je ne me prononce pas.
Faut-il bannir un artiste s'il tient des propos discriminatoires ?
Oui.
Et s'il est mort ?
S'il tient des propos discriminatoires, ah oui. Ah bah oui.
Et vous pensez qu'il faut bannir un artiste pour les propos qu'il a tenus qui peuvent être discriminatoires ou racistes ou sexistes ?
Oui.
Ça dépend après, ça dépend ce qu'ils disent.
Si le gars qui a fait ça, il est mort ?
Si c'est vraiment discriminatoire, ouais, pas de soucis.
Est-ce qu'il faut bannir un artiste, auteur, chanteur, peintre s'il tient des propos discriminatoires ?
Alors, discriminatoire, si c'est un préjudice moral, oui. Si c'est juste de l'offense, non. C'est la liberté d'expression.
Et si cette personne est morte ?
Peu importe.
Et est-ce que, d'après vous, il faudrait bannir les artistes s'ils ont tenu des propos discriminatoires, racistes ou...
Je pense qu'il faut laisser faire la loi. Et après, il faut savoir pardonner, donc passer à autre chose. Donc non, pas les condamner.
Et s'ils sont morts ?
Non, parce que justement, c'est avec ça qu'on fait l'histoire.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait bannir un artiste s'il tient des propos discriminatoires ?
C'est évident, oui.
Et même s'il est mort ?
Même s'il est mort.
Faut-il bannir un artiste, auteur, chanteur ou peintre s'il tient des propos discriminatoires ?
Bah, moi, c'est pas ce que je soutiens, donc je dirais oui. Mais après, chacun est libre de penser ce qu'il veut.
Et est-ce que, pour vous, il faudrait bannir les artistes s'ils tiennent des propos discriminatoires ?
Ah, ça repose la belle question de la liberté d'expression qui nous frappe tous en ce moment. Pour moi, quand tu fais une œuvre, par le rap, souvent, c'est des propos quand même assez violents dans pas mal de chansons. Tu peux t'en servir pour passer un propos, mais il faut que le propos derrière ne soit pas discriminatoire, justement.
Si les artistes sont morts.
Moi, je pense pas forcément, parce que, à mon avis, les propos que les gens ont pu tenir, etc., suivant l'évolution de l'époque, bah, la classification, est-ce que c'est discriminatoire et tout, évolue aussi. Et donc, moi, je pense que je bannirais pas forcément, à titre posthume, des chansons ou autres.
Bon, on voit des avis très mélangés, très distincts. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer ?
Eh bien, on peut voir que, déjà, en reprenant les premières questions qui sont sur le réalisateur et les réalisatrices, on peut voir qu'il y a un bon nombre de réponses pour le réalisateur. Beaucoup de personnes ont trouvé, contrairement aux réalisatrices où il y a eu 2 réponses, il me semble. Donc on peut bien voir qu'en effet, les réalisateurs sont bien plus médiatisés que les réalisatrices.
En ce qui concerne l'image de la femme dans les clips de rap, on peut voir qu'ils sont tous très, très, qui pensent que c'est quand même très cliché, que c'est pas très normal que les femmes elles soient dénudées, et voilà.
Ouais, on peut voir aussi quand on interroge les gens qu'il y a certaines personnes... que ça dérange pas, qu'ils disent c'est leur problème si les gens regardent ça. Mais on peut remarquer qu'il me semble que toutes les personnes de sexe féminin qu'on a interrogées trouvaient ça pas normal, voire, comme on dit, ça fait pitié. Du coup, c'est même plutôt elles qui sont concernées et ça se comprend.
Il n'y avait pas que les personnes de sexe féminin qui disaient que c'était pas forcément positif.
Oui, mais toutes les personnes de sexe féminin ont trouvé cela honteux. Et alors que certaines personnes masculines ont trouvé ça que c'était le problème des autres, de ce que ça concernait uniquement ceux qui regardaient.
Aussi, on voit, par exemple, on a interrogé des jeunes. Et eux, y en a qui avaient un peu moins de problèmes avec le rap, qui n'avaient pas vraiment des clichés et tout ça sur le rap. Puis quand on interrogeait les adultes, on voyait qu'ils étaient un peu plus... que c'était pas vraiment quelque chose de normal. Enfin, on sentait que c'était pas quelque chose qu'ils avaient dans leur vie de tous les jours. Il y en a qui connaissaient même pas, en fait.
Oui, je suis d'accord.
Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on peut observer souvent, l'âge des gens, la tranche d'âge qui écoute le plus de rap, c'est les jeunes. C'est sûr que les adultes, c'est pas la génération du rap, c'est d'autres musiques, d'autres artistes, et c'est normal qu'ils s'y connaissent moins bien. Eh bien, je pense que nous avons fini. Alors nous allons vous laisser avec le second groupe sur Noël, après la chanson All I Want For Christmas de Mariah Carey.
I just want you for my own, more than you. my wish come true.
Nous sommes toujours avec vous dans l'émission Ici et ailleurs, un autre regard sur le monde, sur Radio Sigma. Nous venons d'écouter All I Want for Christmas de Mariah Carey. Après avoir écouté une partie de l'émission consacrée au cinéma et au sexisme, nous allons maintenant parler de Noël, sa cuisine et ses traditions. Cette partie d'émission va être présentée par Alice Guilleux et nous sommes sur plateau avec Eulalie.
Bonjour.
Et Aliénor.
Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi ?
Très bien, merci. Eulalie va maintenant nous parler de la cuisine de Noël.
Oui, alors tout d'abord, je vais vous parler des fruits et légumes de saison pour Noël. Donc en fruits, il y a les oranges, les clémentines, les poires et le kiwi. Et en légumes, vous pouvez manger des pommes de terre, du fenouil, de l'oignon, du poireau, des champignons, du chou-fleur, des navets, des potirons, du céleri et bien évidemment du chou. Après, les filles, d'après vous, quel est le plat traditionnel français ?
Les huîtres.
La dinde ?
Oui, la dinde au marron, qui date de 1500, rapportée en Europe par Christophe Colomb. Elle était appelée poule d'Inde, car les Espagnols pensaient se trouver en Inde en découvrant l'Amérique, d'où le nom dinde. Elle est donc accompagnée de marron cuit vapeur. Après, je vais vous dire la fameuse recette de la bûche. Donc, il vous faudra préchauffer votre four à 180 degrés, puis séparer les blancs des jaunes de 4 œufs. Fouettez les jaunes avec 120 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez ensuite 120 g de farine et la pincée de sel. Battez les blancs en neige et les mélangez aux œufs. Étalez sur une plaque et faire cuire 12 minutes. Démoulez et laissez refroidir en couvrant d'un torchon. Et enfin, étalez du chocolat ou du caramel ou de la confiture. Puis roulez délicatement le gâteau. Et vous, les filles, vous mettez quoi dans votre bûche ?
Moi, je mets du chocolat.
Alors moi, souvent, on fait une bûche au chocolat et une bûche crème citron. Donc maintenant, Aliénor va nous présenter les traditions de Noël en France.
Savez-vous d'où vient la bûche de Noël ?
Pas du tout.
Au départ, c'était un tronc d'arbre que l'on choisissait avec soin pour qu'il brûle le plus longtemps possible. En 1870, des pâtissiers décident de transformer cette bûche en gâteau. Et savez-vous, sinon, d'où vient le sapin de Noël ?
Non, je ne sais pas.
Non plus.
Il est apparu en Alsace vers 1521 sous le nom d'arbre de Noël. À cette époque, il était décoré de confiseries, de gâteaux et de pommes. Savez-vous d'où vient le traîneau du Père Noël ?
Non.
C'est l'écrivain Clément Clark qui, en 1821, inventa dans un conte pour enfants, la nuit d'avant Noël, le fameux traîneau. D'où viennent les cadeaux de Noël ? Avez-vous une petite idée ?
C'est pas les cadeaux de Saint-Nicolas ?
Oui, il y a cette légende, mais ça date d'il y a encore plus longtemps. Les Romains, en effet, s'offraient des figurines en terre cuite ou en cire lors des Saturnales, donc du solstice d'hiver. Puis ce fut au tour de Saint-Nicolas, comme vous l'avez dit, de récompenser les enfants sages. Au XIXe siècle, les enfants recevaient des oranges, symbole de prospérité. Maintenant, nous allons parler des différentes traditions en fonction des régions de France. Donc en Franche-Comté, Tante Harry, accompagnée de son âne Marion, vient déposer des cadeaux aux enfants sages et des brindilles aux vilains garnements. En Normandie, on fait brûler une bûche, puis on demande aux enfants de partir. Quand ils reviennent, ils trouvent la bûche remplie de confiseries. En Lorraine, on célèbre Saint-Nicolas depuis plus de 1000 ans. Accompagné du père Fouettard, qui punit les méchants, il distribuait des friandises dans la nuit du 5 au 6 décembre. En Gironde, dans la nuit du 24 au 25 décembre, on brûle des gerbes de paille pour protéger les futures récoltes. En Alsace, on commence à célébrer Noël 4 semaines avant, jusqu'au 6 janvier. Tous les dimanches jusqu'au 24 décembre, on allume une bougie sur la couronne de l'Avent. En Provence, les santons provençaux, santounes, c'est-à-dire petits saints, sont fabriqués avec la terre rouge de la région et représentent les différentes personnalités du village, comme le meunier, le pêcheur. Les 13 desserts sont dégustés au réveillon sur une table décorée de blé de la Sainte-Barbe et d'une branche de houx porte-bonheur. En Champagne-Ardenne, avant la messe de minuit, la tradition veut que l'on mange des gaufres. La bourre, de longue brioche sur laquelle on faisait des trous avec un dé à coudre, était offerte par le parrain ou la marraine. En Bourgogne, on ne parle pas de Père Noël, mais de Père Janvier. Pour le repas, on mange des escargots persillés, une fricassée de fraissures ou des œufs meurettes. La coutume veut que, devant sa porte, on dépose une bûche enflammée pour que la Vierge vienne se réchauffer. En Bretagne, lorsque la cloche sonne les 12 coups de minuit, la tradition veut que l'on entende les cloches des villages engloutis et des menhirs sortis de terre pour aller boire l'eau des sources. Aussi, on déposait devant sa porte une bûche enrubannée et arrosée d'eau bénite et de sel. En Savoie, le Père Chalande, qui ressemble beaucoup au Père Noël, passait par la cheminée pour donner des cadeaux aux enfants. Et vous, avez-vous des traditions familiales ?
Pas particulièrement, non. On va juste ouvrir les cadeaux sous le sapin.
Nous, on va à la messe et on ouvre les cadeaux, comme Alice.
Et bien maintenant, nous allons élargir un peu notre vision et je vais vous parler des traditions de Noël les plus étonnantes à travers le monde. Tout d'abord, en Norvège, par exemple, les gens cachent tous leurs balais de la maison pour éviter que des sorcières les volent pour aller justement s'envoler. En Finlande, les gens vont tous au sauna pour Noël. Ça peut nous paraître assez étonnant, mais c'est une tradition répandue. En grec, les gens bloquent la cheminée pour éviter que des gobelins rentrent dedans sur toute la période de Noël. Ils ne font pas de feu de cheminée, donc ils coincent complètement leur cheminée. En Catalogne, tradition assez étonnante, leur bûche de Noël est en fait une piñata et les enfants tapent dessus en criant « Caga tío », ce qui signifie en fait « chi bûche » et ils récupèrent après les friandises qu'il y avait dedans. En Australie, on est dans l'hémisphère sud, donc c'est en plein été. Donc c'est pas très rare d'imaginer Noël en maillot de bain au bord de la plage. Il y a quelques personnes qui le font quand même pas du tout à la bonne date pour être quand même en hiver et avoir la tradition hivernale des sapins de Noël et de la neige. À la Réunion, forcément, ce sont d'autres végétaux ou d'autres arbres qui servent pour le sapin de Noël. des arbres qui sont plus répandus là-bas. En Inde, pareil, ce sont des bananiers ou des manguiers que l'on décore. Et on met des lampes à huile sur les toits, comme nous on fait pour la fête des Lumières parfois. Et par exemple, en Espagne, les périodes de Noël sont aussi l'occasion de la plus grande tombola télévisée du monde. Je vais maintenant vous citer plusieurs plats assez étonnants qu'on peut retrouver partout dans le monde à Noël. Et vous allez devoir retrouver à quel pays ils appartiennent. En quel pays peut-on manger un KFC, du lutefisk, c'est-à-dire de la morue à la soude, un barbecue, du foie gras à la vanille, des carpes qui sont restées plusieurs jours nager dans la baignoire, ou de la soupe de crevettes. Parmi ces plats, ils se trouvent en Australie, au Japon, à La Réunion, en Suède, en Pologne et au Brésil. À votre avis, lesquels vont dans quel pays ?
Je pense que le barbecue, c'est en Australie, parce que d'après moi, ils font des barbecues sur la plage en maillot de bain.
Et oui, en effet, le barbecue est une grande spécialité australienne et Noël ne coupe pas à la règle.
Et les crevettes, ce serait pas au Brésil qu'on les mange par hasard ?
Si, bravo, la soupe de crevettes, c'est bien au Brésil qu'on en mange. D'autres idées ? Le foie gras vanille, par exemple, saviez-vous où est-ce que ça se trouve ? Au Japon, à La Réunion, en Suède ou en Pologne ?
Je pense que c'est à La Réunion.
Et oui, à La Réunion, on mange des choses assez européennes, classiques, les volailles notamment, des choses totalement inconnues ici, des poissons, des choses comme ça, et des mélanges assez curieux, comme le foie gras à la vanille. Et où pensez-vous qu'on puisse manger, par exemple, le KFC ?
Aux États-Unis.
Non, pas du tout.
Ah bon ?
C'est au Japon. En effet, la tradition de Noël au Japon, c'est assez récent. Et donc, il n'y a pas si longtemps, on était absolument impossible de trouver un repas de Noël européen au Japon. Et c'est le patron du KFC qui a eu l'idée la première fois et qui a donc mis des menus de Noël dans son menu à Noël. Et depuis, tous les Japonais, pour fêter Noël, vont au KFC. Il nous reste donc le lutefisk, la morue à la soude, et les carpes qui restent dans la baignoire, qui sont en Suède ou en Pologne. Lequel est quel endroit, à votre avis ?
Je pense qu'en Pologne, c'est les carpes qui sont restées quelques jours dans la baignoire.
Eh oui, car à une époque, la Pologne appartenait à l'URSS. Donc ils n'étaient pas sûrs de pouvoir bien s'approvisionner à temps. Ils gardaient donc les poissons dans leur baignoire et ils les laissaient nager. Plus grand monde ne le fait, mais quelques personnes quand même. Et enfin, forcément, le lutefisk, la morue à la soude, en Suède. Avis aux amateurs de plats étranges. Une dernière histoire très intéressante et très drôle. Au Venezuela, les gens vont tous à la messe à roller. Les enfants mettent une ficelle à leur orteil et laissent passer leurs pieds à la fenêtre. Les gens passant à roller tirent sur la ficelle et ils peuvent regarder tout le monde qui passe à roller. Et maintenant, nous allons pouvoir écouter notre micro-couloir. Tout d'abord, est-ce que ça vous a plu de faire ce micro-couloir ?
Oui, c'était très intéressant d'avoir les avis des gens sur nos questions.
Oui, j'ai bien aimé. Les gens se confiaient vraiment à nous et c'était très sympa.
Alors moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très drôle quand les gens poussent quelqu'un dans leur groupe pour qu'il réponde aux questions et les réponses assez sincères et parfois drôles. On écoute.
Cadeau le 24 au soir ou 25 au matin ?
25 ?
Oh bah le 25 au matin. Faut attendre que le Père Noël soit passé.
Le 25 au matin.
Moi perso, le 24 au soir.
Le 24 au soir.
C'est toujours le 25 au matin.
Le 24 au soir. Ouais, on est impatients.
Habituellement, c'est plutôt le matin.
Moi, le 24 au soir.
Mais plutôt pour acheter les cadeaux en grande surface ou chez les producteurs locaux ?
Ça dépend. Ça dépend en fait du cadeau. Parfois, c'est en grande surface parce qu'il n'y a que là qu'on les trouve. Et puis parfois, chez les locaux parce qu'il faut faire marcher le travail local. Et puis c'est de meilleure qualité très souvent.
Producteurs locaux.
Il faudrait que j'essaye d'acheter plus chez les producteurs locaux.
Les producteurs locaux.
Alors, les producteurs locaux de cadeaux de Noël, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt en grande surface. Mais par contre, tout ce qu'on mange, c'est-à-dire pas les cadeaux, mais toute la nourriture, on le sait plutôt chez les producteurs locaux, si on peut.
C'est pour les producteurs locaux.
Plutôt producteurs locaux.
Ça dépend des cadeaux. Là, un peu des deux.
Les producteurs locaux.
T'attends quoi comme cadeau pour Noël ?
Des vêtements.
J'ai une très très grande liste. Aucune idée.
Je préfère quand c'est des surprises justement.
J'ai pas encore réfléchi.
J'en attends pas. J'aime bien les surprises en fait. Plein de livres.
J'ai pas réfléchi à mes cadeaux de Noël. C'est quel âge faut-il croire au Père Noël ?
Je pense qu'il n'y a pas d'âge.
10 ans, le plus tard possible. Parce que c'est drôle.
Milieu primaire, fin primaire.
le plus longtemps possible.
6-7 ans.
Le plus tard possible.
Entre 8 et 10 ans.
À quel moment il faut acheter et décorer le sapin ?
Nous, on essaie de le faire début décembre.
Après le week-end de la fête des Lumières.
Moi, personnellement, je le fais dès début décembre.
En décembre ?
Alors nous, on le fait à partir du 8 décembre, parce que c'est la fête des Lumières et à Lyon, et notamment la fête de Marie. Donc on démarre à ce moment-là.
C'est terrible de détruire des arbres pour ensuite les balancer dans la rue un mois plus tard. Donc pas de sapin.
Je sais pas exactement. Cette année, je pense qu'on va le faire quand la période de l'Avent va commencer.
Nous, on le fait début décembre, entre les deux premières semaines en général.
Un mois avant ?
Acheter en ligne ou acheter en magasin, sans commis, bien sûr.
Magasin ?
En magasin.
Non, en magasin.
En magasin.
Moi, j'aime bien acheter les cadeaux en magasin, et c'est toujours ce qu'on fait.
En magasin.
En magasin.
Un peu en ligne, un peu en magasin. Ça dépend un peu du temps que tu as.
Noël avec ou sans messe ?
L'an dernier, ce fut avec messe.
Avant avec et maintenant sans.
Avec la messe. Avant c'était plutôt avec, maintenant c'est plutôt sans.
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 Ah bah bien sûr, oula.
Avec. Et avec ou sans crèche ?
C'est mieux avec la crèche.
Avec crèche toujours.
Plus.
Toujours avec.
Sans.
J'ai pas de crèche moi.
Avec.
Ah on a la crèche.
Avec. Citer un film culte de Noël. Le Père Noël est une ordure.
Si le Père Noël est une ordure.
Père Noël est une ordure.
Oh bah le Père Noël est une ordure.
Ouais c'était le jour d'après.
Les 10 commandements. Ben-Hur également.
Le Père Noël est une ordure.
Le Grinch.
Merci beaucoup. Merci.
Et donc vous, que pensez-vous des microphones de ce micro trottoir?
C'était très intéressant et très constructif.
Très varié aussi.
Et pour votre part, les cadeaux, vous attendez quoi pour Noël cette année?
Je n'ai pas encore vraiment réfléchi, on est quand même un petit peu tôt.
Oui, c'est vrai. Donc est-ce que vous l'avez vu ce fameux film qui revient très souvent dans les réponses à propos des films cultes, Le Père Noël est une ordure?
Non, je ne l'ai jamais vu, il faudrait le voir, c'est vrai que ce serait mieux, parce que vu que tout le monde en parle, mais non, je n'ai jamais vu.
Et vous?
Non, moi je ne l'ai jamais vu non plus.
Alors moi je l'ai vu tous les ans, à force, bon, c'est un peu moins drôle, mais c'est drôle quand même, il faut que vous le voyez. Donc personnellement, vous êtes plutôt pour les cadeaux, le 24 ou le 25?
Le 25.
Le 25.
Alors moi, j'aimerais le faire le 25, mais quand même, en général, on fait le 24 au soir, on essaie d'attendre après minuit, ou au pire, on dérègle les montres pour faire genre qu'on est après minuit et on ouvre les cadeaux le 24 au soir.
Bonne tradition.
Très utile. Et qu'est-ce que vous pensez de ce que les endroits où les gens achètent leurs cadeaux? Est-ce que vous trouvez que c'est bien d'en acheter en magasin, en ligne, chez les petits producteurs?
C'est mieux d'acheter en magasin parce qu'on peut avoir plus de choix, en ligne aussi, mais les producteurs locaux sont pas forcément très bien dans cette histoire, car ils n'ont pas forcément de site en ligne.
Oui, donc moi je trouve que quand même c'est mieux d'essayer d'acheter des trucs locaux parce que c'est plus traçable, on peut plus savoir ce qu'on achète.
Oui, je suis d'accord.
Je suis d'accord avec toi aussi.
Et du coup, vous croyez qu'il faut laisser les enfants croire au Père Noël longtemps? Ou est-ce que c'est un peu cruel quand même de les laisser y croire longtemps et qu'ils sont plus déçus après?
Moi, mes parents, ils m'ont pas vraiment fait croire au Père Noël. C'était un petit peu une histoire comme ça, mais on n'y a jamais cru.
Moi, comme certaines personnes l'ont répondu, je pense que c'est mieux de faire croire le plus longtemps possible. Après, c'est plus marrant.
Personnellement, je pense que c'est bien d'y faire croire le plus longtemps possible. De toute façon, on n'arrivera jamais à leur faire croire au-delà de 6-7 ans. Mais c'est bien quand les enfants jouent le jeu, font semblant d'y croire.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Et donc, merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Merci au premier groupe d'avoir présenté leur partie sur le cinéma et le sexisme. Et donc, merci à vous de nous avoir éclairés sur la cuisine et les traditions de Noël. On se dit à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.